Bonjour, je suis Olivier, bienvenue dans le podcast de Nightmare Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Ma vie, sous-titré Souvenirs, Rêves et Pensées, est le récit autobiographique tardif de Carl Gustav Jung, psychiatre suisse et fondateur de la psychologie analytique. Entrepris en 1957 avec le concours de sa collaboratrice Agnella Jaffé, puis publié après la mort de Jung, le livre ne cherche pas à fournir une chronique exhaustive de sa carrière. Il privilégie les expériences intérieures, les rêves, les visions, les lectures, les rencontres et les lieux qui ont orienté sa pensée. Jung y présente son existence comme le déploiement progressif de contenus inconscients vers une conscience plus ample. Les épisodes biographiques. De son enfance dans une famille pastorale à la rupture avec Freud, en passant par ses voyages et la tour de Bollingen, prennent ainsi une valeur symbolique. Cette forme hybride de mémoire intellectuelle, de confession spirituelle et de réflexion psychologique permet de suivre la genèse vécue de notions majeures telles que les archétypes, le processus d'individuation, la synchronicité et le rôle religieux de la psyché. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, une autobiographie conçue comme le mythe intérieur de Jung. Le choix formel de ma vie est décisif. Jung ne mesure pas la vérité de son parcours par la succession de faits publics, mais par ce qui a transformé son rapport à lui-même. Il sélectionne donc les souvenirs selon leur intensité psychique plutôt que selon leur importance sociale. Son enfance, ses rêves précoces, ses conflits intellectuels ou ses constructions à Bollingen ne sont pas traités comme de simples anecdotes. Ils deviennent les signes d'une confrontation durable entre la conscience et des forces intérieures qui la dépassent. Cette perspective explique le caractère discontinu du récit, certains moments de la vie professionnelle sont condensés, tandis que des images oniriques ou des impressions religieuses reçoivent une attention considérable. Pour Jung, la personnalité ne se réduit pas au moi conscient, c'est-à-dire à la part de nous-mêmes qui organise la vie quotidienne. Elle comprend aussi des potentialités inconscientes qui cherchent à devenir visibles et intégrées. Le livre illustre donc le processus d'individuation, entendu non comme une recherche de singularité sociale, mais comme la formation graduelle d'une totalité psychique. Cette approche donne au genre autobiographique une fonction théorique. Raconter une vie revient à observer comment elle a été structurée par ses symboles, ses conflits et ses images directrices. Deuxièmement, les rêves et les visions comme matériaux de connaissance psychique. Dans ce livre, les rêves ne constituent ni des curiosités privées, ni des messages à décoder au moyen d'un dictionnaire de symboles. Jung les examine comme des productions spontanées de la psyché, capables de corriger les certitudes du moi conscient et de révéler des tensions ignorées. Leur importance tient à leur fonction, une image onirique peut mettre en scène un problème affectif, une opposition morale ou une orientation existentielle que la pensée rationnelle ne parvient pas encore à formuler. Jung décrit également des expériences visionnaires et imaginatives, surtout durant la période de profonde crise qui suit sa séparation intellectuelle avec Freud. Il ne les présente pas comme une doctrine à imiter, mais comme une confrontation exigeante avec des contenus intérieurs autonomes. Son travail consiste à ne pas les refouler ni les prendre littéralement, puis à chercher une forme consciente pour leur donner place. Cette position distingue son usage des rêves de la pure confession. Le récit montre comment une expérience subjective peut être observée, mise en relation avec des mythes et traduite en réflexion psychologique. Le lecteur comprend que le symbole jungien reste volontairement ouvert. Il ne livre pas une réponse unique, mais relie une situation personnelle à des significations plus vastes, émotionnelles, culturelles et spirituelles. Troisièmement, la rupture avec Freud et la naissance de la psychologie analytique. La relation avec Sigmund Freud occupe une place centrale car elle éclaire la différenciation progressive de Jung. Jung reconnaît la portée fondatrice de Freud, notamment son exigence de prendre au sérieux les processus inconscients. Toutefois, il refuse de limiter la dynamique psychique à la sexualité refoulée et aux conflits issus de la biographie individuelle. Son désaccord porte aussi sur la nature des symboles, là où une interprétation peut ramener une image à une cause passée. Jung cherche à comprendre sa portée actuelle et son orientation possible vers une transformation future. La rupture ne doit donc pas être lue seulement comme un conflit entre deux personnalités célèbres. Elle devient, dans ma vie, une épreuve intellectuelle et psychique qui oblige Jung à élaborer ses propres concepts et à assumer une période d'isolement. C'est dans ce contexte que prennent forme les fondements de la psychologie analytique, la distinction entre inconscient personnel et inconscient collectif, le rôle des archétypes et la recherche de totalité psychique. Le récit rend sensible le coût de cette autonomie. Jung ne présente pas sa séparation comme une victoire simple, mais comme une phase de désorientation suivie par un travail patient sur ses rêves et ses fantasmes. Cette dimension vécue aide à comprendre que sa théorie est liée à une pratique d'observation de soi, autant qu'à une ambition scientifique. Quatrièmement, archétype. Mythe et inconscient collectif au-delà du récit personnel. Ma vie montre pourquoi Jung accorde une telle importance aux mythes, aux traditions religieuses et aux images récurrentes dans des cultures éloignées. Il estime que certaines formes symboliques ne peuvent pas être expliquées uniquement par les souvenirs individuels. Elles renvoient à des dispositions universelles de la psyché qu'il nomme archétypes et dont les contenus concrets varient selon les époques et les personnes. L'inconscient collectif ne désigne donc pas un ensemble de souvenirs hérités au sens ordinaire, mais une dimension structurante qui rend possible certaines images fondamentales. Le récit autobiographique offre un terrain pour observer ce principe. Jung rapporte des expériences personnelles, puis les rapproche avec prudence de motifs mythologiques, religieux ou alchimiques. Cette méthode cherche à éviter deux réductions opposées. La première serait de croire que le symbole relève seulement de la fantaisie individuelle. La seconde serait de traiter les mythes comme des vérités littérales imposées à tous. Jung les considère plutôt comme des langages figurés par lesquels les êtres humains donnent forme à des expériences profondes. Son intérêt pour les voyages, les religions comparées et les civilisations non européennes participent de cette enquête, même si certaines formulations historiques du livre portent la marque de son époque. Pour le lecteur, le point essentiel est la fonction médiatrice du symbole. Il relie une crise intime à des questions humaines plus générales sans effacer la singularité de celui qui la vit. En dernier lieu, religion, synchronicité et Bollingen comme figure de la totalité, les pages consacrées à la religion, à la mort, aux coïncidences significatives et à la tour de Bollingen révèlent une dimension souvent négligée de Jung, sa psychologie, entend prendre au sérieux le besoin humain de sens. Il ne réduit pas l'expérience religieuse à une erreur intellectuelle ou à un simple symptôme. Il y voit l'expression possible de réalités psychiques profondes, à examiner sans confondre psychologie et théologie. La synchronicité illustre cette prudence complexe. Jung emploie ce terme pour désigner des coïncidences vécues comme significatives, lorsqu'un événement extérieur et un état intérieur semblent se répondre sans relation causale démontrable. Le livre ne fournit pas une méthode pour prouver ces correspondances. Il montre plutôt pourquoi elles peuvent compter dans la vie symbolique de certains sujets. La tour de Bollingen fournit une image plus concrète de cette démarche. Construite et transformée pendant des années, elle devient pour Jung un lieu de retraite, de mémoire et de représentation matérielle de sa relation à la psyché. Son architecture et les inscriptions qui y sont associées participent à une recherche de centrage. Ces éléments distinguent ma vie d'une autobiographie académique. Jung y assume que les lieux, les objets et les rites personnels peuvent soutenir un travail de mise en forme intérieure, à condition de ne pas les prendre pour des preuves universelles. En conclusion, ma vie intéressera en premier lieu les lecteurs de Jung, de psychologie des profondeurs, de psychanalyse et d'histoire des idées. Il convient aussi aux personnes attirées par les récits intellectuels qui accordent une place sérieuse aux rêves, aux images religieuses et aux crises de transformation personnelle. Le bénéfice principal du livre ne réside pas dans un ensemble de techniques immédiatement applicables. Il consiste plutôt à apprendre une manière plus attentive de considérer les productions de la vie intérieure, rêves, émotions persistantes, symboles, conflits et impressions de sens. Jung invite à ne pas les réduire trop vite à des explications utilitaires, sans pour autant abandonner tout discernement critique. Les lecteurs y trouvent également un accès privilégié à la formation de la psychologie analytique, car les concepts apparaissent liés à des expériences concrètes plutôt que exposés dans un manuel abstrait. Comparé à une autobiographie classique, le livre se distingue par son refus de faire de la carrière publique son centre de gravité. Comparé à un traité de psychologie, il se distingue par la présence directe d'une voix qui expose ses hésitations, ses ruptures et ses recherches spirituelles. Cette position intermédiaire fait sa force et sa limite, il éclaire remarquablement l'univers de Jung, mais demande au lecteur de distinguer entre témoignages personnels, propositions théoriques et convictions métaphysiques. Lu avec cette vigilance, il demeure une œuvre singulière pour comprendre comment Jung pensait la relation entre une vie individuelle et les formes collectives du sens. Si vous souhaitez soutenir Carl Gustav Jung, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.